Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité, de vos courriers qui nous permettent d'avoir ce lien entre vous et nous. Vous savez combien nous apprécions cela. Alors continuez à nous écrire et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au standard de l'association Marie de Nazareth qui parraine cette émission tous les jours entre 10h et midi ou 14h et 16h au 01 42 50 19 65. Vous retrouverez le numéro de téléphone sur le site mariedenazareth.com. Bonjour Justina, nous allons parler aujourd'hui de Pâques.
Oui, bonjour, le Christ est ressuscité.
Alléluia, Christ est vraiment ressuscité. Puis nous recevrons Anne Dabas, titulaire d'un DEA d'histoire du droit et de l'économie, que nous aurons la joie d'accueillir durant 4 semaines et qui a étudié pour nous durant de longs mois Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce sera passionnant. Bonjour Anne.
Bonjour France, bonjour Justina.
Bonjour.
Alors commençons sans tarder Justina, puisque nous pouvons en ce jour de Pâques parler de cette belle fête.
Oui. Puisque nous sommes le dimanche 31 mars, et même si je suis encore en carême, je ne peux pas m'empêcher de vous saluer, ainsi que nos auditeurs, de manière orthodoxe. Le Christ est ressuscité, la réponse normale, c'est en vérité, il est ressuscité. Pâques est l'essence même de la foi chrétienne, et non une fête parmi d'autres. Si nous lisons avec attention les épîtres et les actes des apôtres, et la manière dont ils prêchent, nous pouvons avoir une surprise. En effet, vous constaterez que les apôtres ne parlent pas d'enseignement de Jésus. À aucun moment, ils ne construisent leur discours en déclarant « comme nous a enseigné le Seigneur ». Remarquez qu'ils ne font pas le résumé du fameux sermon sur la montagne, ils ne parlent pas de miracles accomplis par le Christ quand il marchait sur la Terre Sainte. Le message essentiel que nous pouvons recenser dans le discours des apôtres en tout début de leur mission, le Christ est mort et ressuscité pour nous. Les événements de Pâques forment le noyau de tous les enseignements apostoliques dès leur origine. Le christianisme n'est pas qu'un enseignement, une morale, mais l'histoire d'un fait réel, la résurrection, et les apôtres en témoignent. Pour eux, ce n'est pas un simple fait dans la vie de Jésus, mais un fait dans la vie de tous ceux qui ont entendu et accepté l'évangile de Pascal. Je rappelle que le mot « évangile » signifie en grec avant tout « la bonne nouvelle ». Et les livres que nous appelons ainsi témoignent aussi de cette bonne nouvelle autant que toute autre chose. « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus vit en nous », dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. La mort et la résurrection du Christ agissent en nous. 2 Corinthiens 4, 12. Depuis, tout chrétien a le droit de dire « L'événement le plus marquant de ma vie s'est produit à Jérusalem sous Ponce Pilate. Pourquoi ?» Nous avons déjà évoqué le baptême comme l'entrée dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Nous avons déjà parlé du Christ toute l'année avec l'exemple du dogme de l'incarnation à travers le cycle de la Mère de Dieu. Le Christ étant parfaitement Dieu et parfaitement homme, le nouvel Adam est de ce fait immortel. La mort, comme la conséquence de la chute, ne sépare pas son humanité de Dieu le Père. C'est pour cela que l'apôtre Paul le nomme aussi comme le nouvel Adam. Le nouvel Adam non détaché de Dieu par son péché. Qu'est-ce que la bonne nouvelle pour nous? Sa résurrection. Tout ce que nous faisons, le baptême, l'Eucharistie, sont des moyens de guérir notre humanité ancienne d'une part, et d'autre part, ces sacrements nous permettent aussi d'acquérir sa nature divine. Et dans quel but? En espérant vivre la même chose que lui, la résurrection dans un corps de gloire à la fin des temps. L'apôtre Pierre, dans son épître, rappelle que nous sommes sauvés par la résurrection du Christ et non par sa crucifixion, la crucifixion étant un chemin vers la résurrection. Voici une question que beaucoup de personnes se sont posées et nous posent aussi. Pourquoi avons-nous gardé ce nom de la fête de Pâques, identique à la fête juive de Pâques? En hébreu, le mot Pessah signifie « évitement » et les Juifs fêtent l'évitement du peuple juif des plaies d'Égypte. Quant à nous, nous fêtons tout autre chose, la résurrection de celui qu'on sait être le Messie, mais nous voyons le sens de sa résurrection comme un évitement de la mort, la conséquence numéro 1 de la chute du premier Adam. Nous en avons déjà parlé mille et une fois de cette perception de la mort dans la culture hébraïque et même sumérienne, la mort étant perçue comme un destin, le fatum inévitable. Désormais, elle ne l'est plus et nous croyons, comme nous l'avons mentionné dans notre émission sur l'eschatologie et la mort, que de l'autre côté est l'éternité de la vie qui nous attend et non celle de la mort. La résurrection du Christ n'est pas un souvenir de passé, mais l'espérance de notre avenir.
Oui, Justina, exactement. Vous le dites très bien. Je l'aurais dit, parce que c'est important. Hein. La résurrection du Christ n'est pas un souvenir du passé, mais l'espérance de notre avenir.
Je finirai mon intervention d'aujourd'hui avec l'homélie pascale de Saint Jean Chrysostome que nous lisons traditionnellement dans nos églises. Que tout homme pieux et aimant Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité. Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son maître. Que celui qui s'est donné la peine de jeûner reçoive maintenant le dernier qui lui revient. Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive à présent son juste salaire. Si quelqu'un est venu après la troisième heure, qu'il célèbre cette fête dans la reconnaissance. Si quelqu'un tarde jusqu'après la sixième, qu'il n'ait aucune hésitation, car il ne perdra rien. Si il en est un qui a remis jusqu'à la neuvième, qu'il approche sans hésitation et sans crainte. Et s'il en a qui a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il ne craigne pas son nonchaloir. Le Seigneur est généreux et il reçoit le dernier comme le premier. Il admet au repos celui qui vient à la onzième heure comme le travailleur de la première. Du dernier à la pitié, il prend soin du premier. À celui-ci, il donne, à l'autre, il fait grâce. Il reçoit l'œuvre et il accueille avec amour la bonne volonté. Il honore l'action, il loue la bonne disposition. Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre maître et les premiers et les seconds, et vous recevrez la récompense. Riches et pauvres, ensemble, soyez en fête, abstinents et paresseux, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné et vous qui ne l'avez pas fait, réjouissez-vous aujourd'hui. La table est chargée, goûtez-en tous. Le veau gras ne manque pas. Que personne ne s'en retourne avec sa faim. Tous goûtez au banquier de la foi. Tous recueillent les richesses de la miséricorde. Que personne ne se lamente sur la pauvreté, car le royaume commun est apparu. Que personne ne se plaigne de ses péchés, car le pardon a jailli du tombeau. Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a délivrés. Il l'a éteinte après avoir été retenu par elle. Celui qui est descendu aux enfers a dépouillé l'enfer. Il l'a rendu amer pour avoir goûté à sa chair. Et c'est cela Isaïe l'avait prédit. L'enfer, dit-il, a été rendu amer, car il a été anéanti. Il est devenu amer parce qu'il a été mis à mort. Il est devenu amer parce qu'il a été terrassé. Il est devenu amer parce qu'il a été enchaîné. Il avait pris un corps et il s'est retrouvé devant en Dieu. Il avait pris de la terre et il a rencontré le ciel. Il avait pris ce qu'il avait vu. Il est tombé à cause de ce qu'il n'avait pas vu. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité et tu as été précipité. Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Le Christ est ressuscité et la vie règne. Le Christ est ressuscité et il n'y a plus un mort dans le tombeau. Car le Christ ressuscité des morts est devenu prémisse des défunts. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Justina. Donc, c'était l'homélie pascale de Saint Jean Chrysostome. Alors, la semaine prochaine, nous évoquerons l'Annonciation. À présent, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter l'Alléluia d'Anne Olivet, puisque maintenant, nous pouvons le dire de nouveau, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est chanté par le chœur Gaudete.
Alléluia. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors nous accueillons donc aujourd'hui et tout au long du mois d'avril Anne Dabas pour une série de rencontres qui seront consacrées au père de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort fut un personnage marquant sous le règne de Louis XIV qui eut la vocation inouïe d'être missionnaire et prophète du règne de la Vierge Marie dans les cœurs. Alors bon, rebonjour Anne, vous avez étudié la vie et le message du père de Montfort. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer votre démarche et vous présenter? Mais d'abord, j'ai une question. Vous me confirmez que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort s'appelait en réalité au départ Louis Grignon?
Tout simplement.
Voilà. Oui, voilà. C'est bien. Alors, si vous voulez bien nous dire un petit peu pourquoi vous allez nous parler du père de Montfort.
Bah, je vais déjà poursuivre la réponse à la première question. Donc, le petit Louis Grignon donc, est né en 1673. Et donc, il a changé son prénom et changé son nom pour deux raisons. Son prénom, c'est au moment de sa confirmation. Il avait une telle dévotion à la Vierge Marie qu'il a décidé, le jour de sa confirmation, d'y associer le nom de Marie. Et donc, il s'est fait appeler Louis-Marie. Et puis ensuite, il a voulu faire comme son saint patron, Saint Louis, roi de France, qui a décidé de, enfin, qui signait en fait du nom du lieu de son baptême. Saint Louis signait Louis de Poissy. Et donc le père de Montfort, qui est né à Montfort et qui a été baptisé à Montfort, a décidé de prendre le nom de Montfort. Et donc son nom était le père Louis-Marie Grignon de Montfort. Plus connu sous le nom de Père de Montfort, donc moi je l'appellerai Père de Montfort plus simplement.
Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous dire pourquoi nous allons parler de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort ensemble?
Oui, tout à fait. Alors, pour me présenter, j'ai envie de raconter une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière, alors que je travaillais dans un service diocésain. Et puis je faisais de l'accueil, c'était une expérience très intéressante. Et une fois, une dame m'appelle, elle avait des difficultés, j'avais un peu de mal à comprendre ce qu'elle voulait, donc je la fais parler un petit peu, on discute, et puis petit à petit, je vois vers quel service l'orienter. Et à l'issue de cette conversation qui a été brève, mais qui était profonde tout de même, elle me dit « Mais alors, vous êtes sans doute religieuse ?» Et puis, moi, je fais un petit temps d'arrêt avant de lui répondre et je lui dis, parce que j'aurais dû lui dire, en fait, non, je suis mariée. Et je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas religieuse, mais je suis une mère de famille. Et là, elle a eu un petit temps d'arrêt aussi en me disant, ah, c'est bien. Et puis alors, ce qui est amusant, c'est que la semaine suivante, elle m'a rappelé. En me disant, écoutez, vous vous souvenez de moi, on avait discuté un peu. Je lui ai dit oui, bien sûr. Et je voulais vous dire que quand vous m'avez dit que vous étiez une mère de famille, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, c'est de cette manière que je vais me présenter aujourd'hui. C'est comme une mère de famille reconnaissante. Et puis, si je suis mère de famille, c'est que je suis mariée. Donc, un petit mot aussi pour mon mari.
Très bien. Alors, en tant que mère de famille, vous allez nous parler de la Vierge Marie et de son apôtre, le père de Montfort.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est plutôt, vous me disiez lorsqu'on préparait l'émission, que c'était en vertu de la grâce baptismale que vous aviez eue et de votre confirmation que vous vouliez fonder d'abord tout ce qui tourne, tout le parcours du père de Montfort.
Oui. Oui, et tout à fait. Donc, c'est en tant que baptisée catholique, parce que toute la doctrine du père de Montfort, qui est, elle est très puissante, parce que il est intervenu dans un moment où la France était en perdition. Et donc ça fait
écho. On aurait besoin d'un père de Montfort maintenant.
Ça fait écho tout à fait à ce qu'on. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a intéressée dans sa démarche, c'est que donc c'était un missionnaire absolument infatigable. Donc il a beaucoup évangélisé tout le Grand Ouest de la France. Et en même temps, il a fait beaucoup d'écrits, et notamment un écrit qui est assez mystérieux, mais qui s'adresse à nous, à nous, personnes vivant au XXIe siècle, puisqu'il écrit pour les apôtres des derniers temps. Oui. Et donc, les apôtres des derniers temps, bah, ce sont nous. Enfin, c'est nous, puisque ouais. Voilà, les générations suivantes ne sont pas encore nées.
Vous teniez à préciser que vous n'êtes ni théologienne, ni philosophe, ni historienne. Mais vous avez quand même, si je puis dire, avalé 2400 pages d'un ouvrage assez conséquent, 4 volumes. Voilà. Et donc, à partir de cette œuvre écrite par l'un de ses disciples, hein, qui était l'abbé Jean-Marie Quérard, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
Voilà, et donc, moi je vais vous raconter deux petites anecdotes encore, parce que j'aime bien être concrète. Voilà, une mère de famille, c'est concret, et là je vais vous parler de deux objets.
Oui.
Qui font que j'ai été amenée à comprendre des signes comme quoi c'était important que je puisse vous parler du père de Montfort à notre époque.
Oui.
Premièrement, c'est ce livre de 2400 pages dont vous parlez, écrit par le père Quérard, et que j'ai découvert l'année dernière au centre de documentation du séminaire, enfin de l'ancien grand séminaire de Versailles. Et comme ils font un déménagement, bon, ils se débarrassaient de quelques livres, enfin, qu'ils vendaient comme ça à bas prix.
Ouais.
Et puis moi, j'aimais bien regarder, je trouvais ça magnifique, tous ces livres. Et puis je tombe, mais vraiment providentiellement, et pour moi, ça a été un signe, sur un ouvrage consacré à la vie du père de Montfort. Et comme je savais qu'on devait préparer une émission sur ce thème,
oui.
J'avais vaguement lu le début de la... quelques écrits du père de Montfort, mais pas grand-chose. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. 4 volumes de 600 pages chacun. Là, je vais avoir de quoi faire. Et puis surtout, ça a été écrit au 19e siècle, donc dans une langue française magnifique.
Mmh.
Et donc, ça a été un plaisir d'étudier la vie du père de Montfort, d'étudier toute sa théologie qui a un double intérêt, c'est qu'elle est très profonde, à tel point qu'il a, il a été proposé pour être docteur de l'Église à plusieurs reprises, même si ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et puis en même temps, d'une très grande simplicité, puisqu'il a écrit des cantiques pour pouvoir évangéliser les populations. Certaines étaient illettrées. Et par les cantiques, il arrivait à leur faire comprendre et mémoriser toute sa théologie sur la vie de Jésus, bien sûr, et puis aussi sur l'intercession et la médiation universelle de la Vierge Marie.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il avait écrit ces textes, on avait l'impression que c'était pour nous actuellement.
Oui.
Donc, cet homme du XVIIe siècle a un message pour les hommes du XXIe siècle.
Oui. Et bon, je serais amenée à vous raconter des histoires qui font que, avec... le fait d'avoir étudié le message du père de Montfort, ça me permet de décrypter ce qui se passe aujourd'hui avec un regard d'espérance. Mais je voudrais avant tout parler d'un personnage, moi, qui m'a énormément marqué, qui pour moi est peut-être le grand personnage du XXe siècle, c'est le pape Jean-Paul II. Et le pape Jean-Paul II, qui est le saint pape marial par excellence, qui est l'apôtre, vraiment le plus grand missionnaire de tous les temps. C'est lui qui a fait le plus de milliers de kilomètres en avion, qui a réuni le plus de personnes. Eh bien, le pape Jean-Paul II, il est le fils spirituel du père de Montfort. Et donc, je voudrais peut-être insister un petit peu sur cette... cet épisode du pape Jean-Paul II.
Alors, donc, quel lien y a-t-il entre un fils de juriste, donc vivant en Bretagne au XVIIe siècle, et puis Saint Jean-Paul II ?
Eh bien, Jean-Paul II témoigne qu'il a eu un cheminement intérieur. Il avait une tension quand il était jeune, c'est que une tension spirituelle. Il était, comme tout Polonais, très proche de la Vierge Marie.
Mmh.
Pour deux raisons, c'est que d'abord en Pologne, on a une grande vénération pour Notre-Dame de Częstochowa. Et puis parce que c'est un pays qui est quand même assez proche des pays orthodoxes. Et donc ils ont une dévotion qui est très
forte.
Oui, très forte là, pour la Vierge Marie. Et puis en même temps, lui, il n'avait qu'une loyauté. C'était une loyauté envers le Seigneur Jésus.
Oui.
Et il se disait, pour aimer vraiment totalement le Seigneur Jésus, je vais devoir mettre de côté un peu la Vierge Marie, oui, parce que j'ai une telle propension à aimer la Sainte Vierge qu'elle elle risquerait de prendre toute la place. Et donc, il a décidé de la mettre un peu de côté. Voilà. Et puis, il a fait son séminaire dans la clandestinité et il est tombé providentiellement sur un traité de la dévotion à la Sainte Vierge qui avait été écrit par le père de Montfort. Oui. Et à partir de ce moment-là, ça a été une révélation parce que il a compris qu'il pouvait adorer totalement Dieu et aimer la Vierge Marie de manière totale également. Et donc, il témoigne en 2004 dans une lettre. Il dit que c'est grâce à Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort qu'il a compris que l'authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement christocentrique. Et pour lui, la lecture du traité de la vraie dévotion a marqué sa vie et a été un tournant décisif. Il dit bien un tournant, bien qu'il s'agisse d'un long cheminement intérieur qui a coïncidé avec ma préparation clandestine au sacerdoce. Donc tout ça, il l'écrit en 2004, dans une lettre qu'il a adressée aux religieux des familles montfortaines. Et donc, ensuite, il conclut en disant qu'il s'en est suivi que la dévotion de son enfance et de son adolescence envers la Mère du Christ a fait place à une nouvelle attitude, une dévotion venue du plus profond de sa foi, comme du cœur même de la réalité trinitaire et christologique.
Alors oui, c'est vrai que le pape Jean-Paul II a mis à l'honneur la Vierge Marie pendant tout son pontificat. Est-ce qu'on a vu concrètement des signes de l'influence de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur Saint Jean-Paul II ?
Oui. Il y a beaucoup de beaucoup de signes. Je vous évoquais tout à l'heure le fait qu'il soit missionnaire.
Oui.
Il faut rappeler que le père de Montfort avait le titre de missionnaire apostolique.
C'est-à-dire
que le pape l'a rencontré le pape Clément XI, et le pape lui a donné ce titre très rare, hein, en disant « Vous serez mon missionnaire, vous serez missionnaire en mon nom. La seule chose que je vous demande, c'est d'être en obéissance aous évêques du lieu. Mais sinon, vous avez... » Et donc, le pape Jean-Paul II, il a été missionnaire comme le père de Montfort.
Lorsque nous préparions l'émission, vous me disiez que cette habitude qu'il avait de baiser le sol en arrivant dans un pays était héritée de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, n'est-ce pas ?
Lui-même le faisait, le père de Montfort, quand il arrivait sur un lieu de mission, il s'agenouillait, il baisait la terre, il disait un Ave Maria, et ensuite il se levait et puis il démarrait sa prédication.
Oui, donc en France, il a baisé 100 fois le sol, puisqu'il allait
ses missions,
en village.
Voilà. Et parfois des sols qui étaient pétris par le péché, parce qu'il allait sur les zones de conflit contre l'adversaire, et ça lui donnait une grande force, juste de se prosterner. Les gens en face de lui, parfois, étaient un petit peu étonné, et puis voilà, il disait un Ave Maria, et puis ensuite il démarrait.
Oui. Là, il nous reste 2 minutes. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, nous relater une petite anecdote, parce que il terminait ses missions d'une manière un petit peu particulière. Il procession, je ne sais pas.
Alors là. Donc ça, en fait, comme missionnaire, il avait beaucoup de cordes à son arc.
Oui.
Mais si on a peu de temps, juste, donc il y avait les processions, il organisait des grandes processions, mais ça, je serais amenée peut-être à faire une émission
sur une mission
complète,
oui.
Où il y avait les processions, où il faisait renouveler les promesses du baptême, et il a écrit d'ailleurs un petit texte avec les 10 points importants pour une mission.
Et alors là, vous nous mettez l'eau à la bouche, donc...
Et un des points, justement, qui est fondamental, c'est le rosaire. Donc, c'est toujours sa dévotion à la Vierge Marie qui est prépondérant dans son apostolat, dans sa théologie.
Merci beaucoup, Anne. Alors, nous creuserons davantage la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette première partie. Et nous poursuivrons notamment avec toute la spiritualité montfortaine, comme on dit maintenant. Donc, chers auditeurs, à bientôt sur nos ondes. Si vous aussi souhaitez intervenir dans l'émission, je vous rappelle que vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, vous pouvez même contacter Radio Courtoisie. Merci beaucoup, Justina. À la semaine prochaine. Merci, Anne. À la semaine prochaine.
Au revoir,
et encore bonne fête de Pâques.